C'est parti.
Par une longue introduction pour essayer de se redire l'histoire de l'homme religieux. Je vous ai remis tout ça en introduction hein, sur la feuille, voilà. C'est pour montrer que la foi n'est plus une évidence dans notre époque post-moderne où l'individu est requis à la construction du propre sens de son existence. Le sens n'est plus transmis par un milieu natif et protégé de toute influence. C'est dans la feuille que vous avez reçue. Beaucoup de choix se présentent à l'individu devant lesquels il est difficile de choisir. Et puisqu'il est difficile de choisir, il se voit souvent imposer ce qu'il n'a pas vraiment choisi. L'individu postmoderne est aussi tenté par de fausses évidences. Des prêts-à-penser, résultat de la fatigue d'être soi qui l'habite. Car l'individu postmoderne est un sujet bien souvent fatigué. Fatigué de ne plus pouvoir se reposer sur des institutions de sens qui font autorité. Fatigué de devoir produire sans cesse le sens de ses activités. Fatigué devant l'imprévisibilité du monde qui est devant lui. Mais si Dieu n'est plus une évidence, nous croyons qu'il en va enfin de l'opportunité de laisser se révéler ce Dieu-là de la révélation. Celui qui s'adresse à l'homme fatigué pour lui faire l'offrande gratuite d'une vie nouvelle, d'une eau vive qui étanche sa soif. Autrement dit, vous voyez que au pessimisme du premier cours va s'opposer l'optimisme du deuxième. C'est une opportunité incroyable que nous avons aujourd'hui de pouvoir laisser Dieu se révéler. Et nous allons le voir, d'ailleurs, c'est l'expérience que va devoir faire le peuple d'Israël, ceux qui nous précèdent dans la foi. Nos pères, dans la foi, pourrait-on dire, ont dû faire cette expérience de se laisser totalement désarçonner, d'être comme un petit peu perdu devant tant de choix qui se proposaient à eux, qu'enfin peut se révéler ce Dieu-là. Alors pour commencer, pour illustrer ça, bien, c'est toujours dans l'introduction, nous allons lire un texte de la Bible, du livre de la Genèse, qui nous parle justement d'un Dieu qui vient rencontrer un homme fatigué, dénommé Jacob. Chapitre 28, versets 11 à 22. Jacob atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au Nord et au Midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre. Car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Jacob sortit de son sommeil et déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte, et il dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle. Et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu, « Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. De tout ce que tu me donneras, je prélèverai la dîme pour toi. » Quand on lit un texte biblique, en particulier de ce type-là, il faut se laisser surprendre par ce qu'on lit. Il faut se laisser surprendre à la fois par la belle cohérence du texte, mais aussi par un certain nombre de ses incohérences. Parce que, on le verra aussi, la révélation se dit bien souvent au milieu des incohérences. Nous aurions, nous, imaginé que la foi soit un beau cadre bien cohérent. Or, Dieu se révèle plus souvent là où ça fonctionne pas très bien. Juste quelques remarques rapides, parce qu'on va pas faire une exégèse de ce texte, mais c'est juste en motif d'introduction pour ce qui suit. Quelques remarques rapides. La première, au verset 12-13, au début, vous voyez que Jacob a un songe où il a la vision d'anges qui montent et qui descendent sur une échelle. Et puis d'un seul coup, on nous dit au verset 13, c'est au verset 12, verset 13, on nous dit que le Seigneur se tenait près de lui. La première, premier truc qui coince un peu là. Parce que la deuxième n'est pas forcément nécessaire à la première et vice versa. Ils montent et ils descendent, et puis d'un seul coup, il est là, on a l'impression d'une sorte de fixité, il se tenait près de lui. C'est deux visions un petit peu différentes, là, qui se juxtaposent l'une à l'autre. Juste, on se laisse surprendre. Verset 16-17. Verset 16, on a une première réaction de Jacob à ce qu'il vient de voir. Jacob sortit de son sommeil et déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Première réaction, « Il est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Et 17, « Il fut saisi de crainte, et il dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est vraiment la maison de Dieu. » On a l'impression de deux réactions, un peu différentes. « Il est en ce lieu, je ne le savais pas, et que ce lieu est redoutable. » autre surprise. Au verset 13 à 15 de ce texte, vous avez la promesse de Yahvé. Voici que je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. C'est la promesse de Yahvé. Et à la promesse de Yahvé répond le vœu de Jacob. La promesse, Jacob, le vœu, enfin, plutôt le vœu que la promesse, d'ailleurs, le souhait. Versets 20 à 22. Alors Jacob prononça ce vœu. Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. On a l'impression que Jacob, il ignore la promesse de Dieu. Il met des conditions partout là. Si, alors le Seigneur sera mon Dieu. Alors que Dieu vient lui dire, je serai avec toi, je serai là. Dernière surprise de ce texte, peut-être celle qui va le plus nous attarder aujourd'hui, deux manières de parler, de dire Dieu. Je les ai mis entre parenthèses, comme ça c'est plus facile. Yahvé et Elohim. Pourquoi a-t-on deux manières de dire Dieu dans un seul et même texte, récit? Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la manière dont ce Dieu-là s'est révélé et peut se révéler. Mon premier point, qu'est-ce que la révélation? D'abord, on va s'intéresser au terme révélation. C'est un terme qu'on peut dire ambivalent. Pour dire révélation, on peut dire plusieurs choses qui sont un peu autour de ce terme. Certains utilisent le mot grec épiphanie. L'épiphanie n'est pas un terme qui a la propriété des chrétiens. L'épiphanie dit, bien avant la révélation chrétienne, l'apparition du divin. Mais quand on dit apparition du divin, on peut dire aussi apparition du sacré de la nature, de ce qu'il y a de sacré dans la nature. C'est une épiphanie. Un autre terme proche de révélation, celui de dévoilement. Sorte de processus qui s'opère dans un cheminement, et là on va dire dans un cheminement mystique, où se dévoile progressivement la réalité. Comprenez bien que ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que l'épiphanie résume l'idée de révélation? Est-ce que le dévoilement résume l'idée de révélation? On peut aussi employer le terme apocalypse, qui correspond à un accomplissement. Hein? Certains, voilà, par exemple, le livre de l'Apocalypse, les Anglais, ils disent The Book of Revelation. Enfin, juste comme ça. Le livre de la révélation. Mais là, quand on dit apocalypse, on dit pas simplement le processus de dévoilement, mais on dit le voile est levé. Le voile est levé. On est à la fin du processus. Donc on dit plus simplement le processus, on dit ça y est, le voile il est levé. On voit. On parle aussi de proclamation. C'est-à-dire qu'on ajoute à révélation l'idée d'une parole prophétique. Il faut qu'il y ait une parole prophétique qui nous dise. Cette révélation. Puis après, vient une écriture dite canonique, comme révélatrice. Et là, on entend, est-ce que révélation égale écriture? C'est-à-dire qu'il suffit de prendre notre Bible, et ça égale révélation de Dieu. Point d'interrogation. Est-ce que la révélation se limite à ce qu'il y a dans la Bible? Pour l'instant, je laisse ouvert. On peut dire aussi des révélations. Est-ce qu'il y a une révélation ou des révélations? Et quand on dit des révélations, on y donne un peu un caractère un peu privé. Il y en aurait certains qui auraient eu des révélations que d'autres n'auraient pas. Bernadette à Lourdes. Même si elle est chargée de le dire. Plus récemment, au XXe siècle, certains ont parlé de la révélation comme auto-communication. En particulier, un théologien allemand s'appelle Karl Rahner. Auto-communication. Ça veut dire que la révélation ne serait pas la communication d'un message, mais la communication de Dieu lui-même. Dieu lui-même qui se communique. Vous voyez, on essaye d'approcher ce que ça veut dire que Dieu, un Dieu qui se révèle. Alors, toute cette diversité de termes, pour parler de la révélation, nous dit déjà la profondeur du mystère de Dieu. Dieu est toujours plus grand que ce que nous pouvons en percevoir. Dieu est toujours plus grand que ce que nous en percevons. En face de cette ambivalence du terme de révélation, on peut noter aussi une résistance à l'idée même de révélation. Une petite B, la résistance à l'idée même de révélation. Des résistances d'abord à ce qui semblerait autoritaire dans la révélation. On dit, ah, faut que tu croies à ça. Et là, on voit bien, justement, pour reprendre notre individu postmoderne, sa profonde résistance. Parce qu'il ne se fie plus à des autorités stables. Il suffit plus de dire, tu crois à ça, et tu discutes pas. Alors ça, déjà, l'individu moderne, mais alors encore plus l'individu postmoderne. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui serait extérieur à moi, qui s'imposerait à moi. Et qui remettrait en cause mon autonomie. J'ai bien le droit de croire ce que je veux. Ne me l'imposez pas. Donc on résiste. À l'idée d'une sorte de contenu de la révélation qu'il faudrait croire de manière non critique. Et puis, on avait déjà vu ça la semaine dernière, l'époque des Lumières va remettre en cause aussi une sorte de positivité historique. C'est-à-dire, il faut croire que la Genèse, c'est le monde créé en 7 jours et que la science n'a rien à en dire. Ça, on va le remettre en cause, bien sûr, avec la modernité, avec cette idée d'un certain Lessing, qui est lui-même théologien, hein, qui dit « Ce que Dieu enseigne n'est pas vrai parce que c'est Dieu qui l'enseigne, mais Dieu l'enseigne parce que c'est vrai. » Je ne peux pas simplement me fier à dire « C'est l'autorité de Dieu », et alors en plus, l'autorité de Dieu a été confiée à l'Église, et l'Église vous dit des choses que vous devez croire, parce qu'elle est, elle est le médiateur de l'autorité de Dieu. Donc ne discutez pas, l'Église dit vrai, parce que Dieu lui a confié cette mission de dire vrai. Lui, il renverse un peu les choses. Hein. Non, Dieu l'enseigne parce que c'est vrai. Donc, on va commencer à se poser la question de en quoi c'est vrai, ce que je tiens pour vrai. Et si vous venez aussi, peut-être que vous êtes un petit peu dans cette démarche. Oui ?
Cet été au bord de la plage, mais non, mais ton Dieu, je ne peux pas y croire. De toute façon, c'est un homme et ça, je ne supporte pas. Pourquoi ce ne serait pas une femme? Enfin, je vous donne la caricature, en fait, c'est très difficile.
Bah, non, mais parce que c'est pas. C'est la question, c'est pas simplement qu'est-ce que tu penses que Dieu est pour que je puisse croire en lui, et c'est pour ça que je parle de révélation, mais le renversement, c'est quoi? C'est est-ce que je laisse Dieu être ce qu'il est et se révéler à moi tel qu'il est? C'est ça la question de la foi judéo-chrétienne. Et on va le voir, ça va être une question pour le peuple d'Israël. Parce qu'eux aussi, ils vont avoir des conceptions, ils en ont plein. Ils n'arrivent pas dans un monde neutre de Dieu. Il y en a plein des dieux quand ils arrivent, plein. Alors pourquoi le Dieu Yahvé plutôt qu'un autre? Et d'ailleurs, ils vont se poser la question. Qu'est-ce qui le différencie des autres? Et nous, notre question, ça va être, pourquoi ce Dieu-là? Alors, on va la poser en faisant un peu le chemin d'Israël, justement. Mais pourquoi ce Dieu-là? Pas un autre, parce que, comme vous le dites, des notions de Dieu. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Par exemple, Dieu, au départ, si on prend son étymologie, Dieu, Deus, dies, le jour, la lumière. Ah tiens, la lumière, ça veut dire qu'il est plutôt du côté de la lumière. Il s'oppose à ce qui est un peu ténébreux. Dieu, Deus, Dios, Zeus. Zeus, en grec, Zeus. Ah, celui-là, il est au-dessus, parce qu'il est plus puissant que les autres dieux. Alors, je vais lui donner un peu ma confiance, parce qu'il est plus puissant que les autres dieux. Donc, des dieux, il y en a plein. Des images de dieux, il y en a énormément. La question que nous allons nous poser, c'est pourquoi ce dieu-là? Oui.
Et est-ce que ces questions-là, et cette question-là en particulier, n'a pas commencé quand l'archéologie et la science ont commencé petitement, mais de plus en plus, à montrer que les deux premiers chapitres de la Genèse, c'est strictement impossible. Parce que, quoi.
Et voilà, c'est le parcours qu'on va faire. Donc, je vais vous répondre, mais on va en effet. Et puis l'archéologie va beaucoup, justement, aider à essayer de penser l'interrogation même du peuple d'Israël. Comment eux-mêmes, ils ont dû laisser Dieu se révéler tel qu'il était. Et on va arriver à Jésus, puisque Jésus, c'est Dieu qui se révèle à l'intérieur de cette histoire-là. On va y arriver. Mais il faut qu'on essaye de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé pour eux, quoi. Pour que, en effet, ils passent de l'idée que ça s'est passé comme ça à non, on va faire une relecture de ce qui s'est passé. On va y arriver. Donc, on est toujours dans notre idée. Comment comprendre l'idée d'un Dieu qui se révèle, qui simplement ne nous dit pas des choses sur lui, mais qui se dit lui-même. Alors, il y a eu une belle petite phrase là, qui a été écrite lors du Concile Vatican II en 1965, qui est une pépite d'or pour nous, pour comprendre cette révélation. Vous savez qu'au Concile Vatican II, il y a eu un texte sur la révélation divine, qui s'appelle Dei Verbum. On prend toujours les deux premiers mots de la Constitution pour intituler le texte de Vatican II. Dans Dei Verbum, une constitution dogmatique sur la révélation divine, on écrit ça, et je vous invite vraiment à contempler ce texte. Il a plu à Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Par cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son surabondant amour comme à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Pareille économie de la révélation comprend des actions et des paroles, intimement liées entre elles, de sorte que les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut attestent et corroborent et la doctrine et le sens indiqué par les paroles, tandis que les paroles proclament les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. C'est un texte que j'invite mes étudiants à presque connaître par cœur, parce qu'il nous dit le cœur même de la foi chrétienne. J'ai souligné quelques éléments de ce texte qui me paraissent très importants. D'abord, bien sûr, le premier terme, il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler en personne. C'est ce qu'a essayé de dire autrement Karl Rahner. Auto-communication de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne révèle pas des choses sur lui. Dieu se révèle en personne. Dieu ne nous donne pas des modalités de ce qu'il est. Il se manifeste en personne. Vous voyez la nuance entre modalités, par exemple, souvent, on fait un peu des comparaisons qui ne sont pas raisons. Justement, on compare notre foi monothéiste, judéo-chrétienne, avec, par exemple, d'autres religions comme l'hindouisme. Puis on dit, ah tiens, ils ont trois grandes divinités, Vishnu, Krishna et Brahma. Non, ça, ce sont des modalités du divin. C'est différent de trois dieux personnels. Père, Fils et Esprit Saint qui se manifestent ainsi dans l'histoire de l'humanité. Ce ne sont pas des attributs du divin. C'est Dieu lui-même qui se révèle en personne. Ça, ça nous dit un peu la révolution chrétienne du divin. Comment il se révèle, hein, c'est les termes que j'ai soulignés en jaune. Comment il se révèle? Il s'adresse aux hommes. Il s'entretient. Il les invite à partager sa propre vie. On voit bien des termes de la relation. Dieu se révèle pour établir une relation. Et une relation non imposée, qui respecte la liberté de l'autre. S'adresser, s'entretenir, inviter à partager. Et il nous considère comme des amis. C'est la tension du christianisme. Ça. La tension du christianisme, c'est quoi? Cette tension entre l'altérité de Dieu et son éminente proximité. Dieu est le tout autre qui veut faire de nous ses amis. Il faudra toujours tenir cette tension dans la révélation judéo-chrétienne. D'ailleurs, les Juifs nous la rappellent. Nous la rappellent du côté tout autre. Et nous interpellons le peuple juif du côté de cette éminente proximité. Mais il y a toujours cette tension. Pourquoi il y a toujours cette tension ? Parce que si nous ne laissons plus Dieu être tout autre, nous en faisons le Dieu de nos projections. Hein, c'est pour ça que pour répondre à la question, mais c'est qui Dieu, etc. Le Dieu de la révélation chrétienne n'est pas le Dieu de nos projections. J'ai peur de l'obscurité, alors il vaut mieux que Dieu soit du côté de la lumière. Oui, mais hein, ça serait un peu encore le Dieu de mes projections. Il faut que je fasse peut-être l'expérience de la plus grande obscurité pour laisser Dieu lumière se révéler dans ma vie. Parce que sinon, je ne crois plus en Dieu, si je suis dans l'obscurité et que le Dieu lumière ne se manifeste pas. Eh bien, il se manifeste au moment où il veut, quand il veut, de la manière dont il le veut. Et c'est ça le Dieu de la révélation chrétienne. C'est pas le Dieu de mes projections. Pareil, économie, alors là, c'est juste pour bien s'entendre sur le terme économie, ça veut dire que ça se déroule dans l'histoire. C'est pas tout est donné d'un coup. Ou tout est donné à la fin. Non, ça se déroule dans l'histoire. Ça aurait été trop facile si le peuple d'Israël, ils avaient tout compris au moment où Dieu se révélait à Abraham. Non, ils n'ont quasi rien compris, quoi, à ce moment-là. Ils n'ont pas compris grand-chose, même. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps. Il va falloir des événements, beaucoup d'événements, pour qu'enfin... Ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il s'est révélé à... Ah, c'est pour ça qu'il est venu nous sortir d'Égypte. Tout n'est pas donné dans une sorte de package au tout début et il faudrait prendre ce package pour croire. Économie de la révélation qui comprend des actions, en latin gestis, et des paroles verbis. C'est pas que des paroles, la révélation. Et même encore plus, pour être provocateur, c'est pas que des paroles écrites même. Ça suffit pas. Ça, c'est les témoins de Jéhovah qui disent ça. Avec tout le respect que je peux avoir pour eux, c'est malgré tout, la révélation, c'est croire en des paroles écrites là, voilà, telles qu'elles sont écrites. Non, c'est des gestis et verbis. C'est-à-dire, comprend, entre dans le geste de Dieu. Et finalement, l'écriture nous aide à entrer dans le geste de Dieu. Et nous invite sans cesse à entrer dans le geste de Dieu. Mais qu'est-ce que tu voulais dire quand tu disais « prenez et mangez-en tous » ? Et ça, on se le répète chaque dimanche peut-être. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit ça ? Ça, c'est le geste de Dieu, le geste du Christ. Ben, pourtant, c'est écrit. On pourrait dire ben, « c'est écrit, tu crois ça, c'est écrit et c'est tout ». Non, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et qu'est-ce qu'il m'invite moi-même à vivre quand il me dit ça? C'est ça la révélation. Alors vous comprenez bien que cette... Si on est arrivé à ça, en 1965, c'est pas sans un certain nombre de débats dans l'histoire, et notamment un grand débat, qui est le rapport entre l'écriture et la tradition. Est-ce que la révélation de Dieu nous est transmise par l'écriture ? Et dans ce cas-là, il suffirait d'ouvrir notre Bible, de la lire et... nous aurions tout le message de la révélation de Dieu, ou par ce que nous appelons aussi tradition. Et il y a eu une petite querelle, notamment au XVIe siècle. Quand je dis petite, je suis faible, entre un certain Martin Luther et l'Église catholique, on va dire, ceux qui lui ont répondu, en tout cas les pères conciliaire du concile de Trente, en Italie. Vous savez que Martin Luther énonce ce principe du sola scriptura. Seule l'écriture, ou l'accueil de l'écriture, procure la foi. Puisque dans l'écriture nous est donné l'ensemble de la révélation divine, ou est-ce que, voilà, qu'il y a aussi toute la tradition, en s'entendant bien ce que nous allons faire sur le terme de tradition. Le Concile de Trente va répondre cela. Le Saint Concile œcuménique et général de Trente, légitimement réuni dans l'Esprit Saint, garde toujours devant les yeux le propos, en supprimant les erreurs, de conserver dans l'Église la pureté même de l'Évangile, lequel, promis auparavant par les prophètes dans les Saintes Écritures, a été promulgué d'abord par la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu qui ordonna ensuite qu'il soit prêché à toute créature par ses apôtres, comme source de toute vérité salutaire et de toute règle morale. Il voit clairement aussi que cette vérité et cette règle sont contenues dans les livres écrits et dans les traditions non écrites qui reçues par les apôtres de la bouche du Christ lui-même ou transmises comme de main en main par les apôtres sous la dictée de l'Esprit Saint sont parvenues jusqu'à nous. C'est pourquoi, suivant l'exemple des pères orthodoxes, le même Saint-Concile reçoit et vénère avec le même sentiment de piété et le même respect tous les livres, tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Puisque Dieu est l'auteur unique de l'un et de l'autre, ainsi que les traditions elles-mêmes concernant aussi bien la foi que les mœurs, comme ou bien venant de la bouche du Christ, ou dictées par l'Esprit Saint et conservées dans l'Église catholique par une succession continue. Il n'y a pas beaucoup de points dans les phrases des conciles. C'est des longues phrases. Voilà. Et puis, c'est très, hein, c'est des heures, des mois, des années de débat pour arriver à une formule qui puisse satisfaire tout le monde. Donc forcément, c'est un peu complexe d'approche. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit tradition? On dit trois choses. On dit tradition avec un grand T, et dans le texte, ce qui nous vient de la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Christ nous a transmis. Lui qui est, comme dans l'autre texte nous avions vu, médiateur et plénitude de la révélation. C'est-à-dire qu'en lui, toute la révélation divine se dit et qu'il nous la transmet. En lui, dans sa personne. Ceci, c'est contenu dans les livres et écrits. Voilà, c'est la tradition. Deuxième. Post-apostolique. Hein, les apôtres reçoivent la révélation du Christ, et puis, peu à peu, cette révélation est mise par écrit. Et enfin, ce sont les traditions non écrites. Avec toujours un principe hiérarchique. Quand vous lisez l'Écriture, vous, ce que nous allons faire d'ailleurs, voilà, nous allons la lire, et moi je la lis comme ça, voilà, c'est parce que je suis dans cette tradition-là, je la lis à partir de la rencontre du Christ. Le Christ vient ouvrir ma compréhension de toutes les Écritures, y compris l'Ancien Testament. Donc quand je lis l'Écriture, je dis mais Jésus, là, qu'est-ce que tu as voulu nous dire? Qu'est-ce qui était préparé de ta révélation dans l'Ancienne Alliance? Bien sûr. Oui.
Moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Est-ce qu'il y a plus de révélations dans ce monde moderne que du temps de Jésus?
Non.
Parce qu'on reçoit tellement de mails de ceci, de cela, nous en s'est révélé à telle personne, Dieu a dit ça, Jésus est apparu à telle personne.
Vous savez que la tradition catholique dit que la révélation est close à la mort du dernier apôtre. La révélation est close à la mort du dernier apôtre. Alors ça, c'est l'enseignement classique du catéchisme de l'Église catholique. Il faut s'entendre, bien sûr, sur cette formulation. La révélation est close à la mort du dernier apôtre.
Vous avez parlé de
Sainte-Thérèse, Sainte-Bernadette, tout ça, voilà. Ce qui ne veut pas dire que l'interprétation de cette révélation serait close. Mais son référent sera toujours la tradition apostolique, consignée dans les Écritures. Donc si quelqu'un vous dit qu'il a une nouvelle révélation de Dieu, c'est pas une nouvelle révélation de Dieu. C'est une interprétation de ce qui a été transmis par la voix des apôtres et consigné dans les Écritures.
Ça devient quand même dangereux parce qu'on a du mal à faire la part des choses dans l'interprétation.
D'où l'importance, et ça on le verra par la suite, mais d'où l'importance de trois grands principes dans l'Église, en tout cas. On le reverra, mais je le dis déjà. Hein. trois critères de discernement. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Est-ce que c'est en accord avec l'Écriture? Est-ce que c'est fidèle à l'enseignement du magistère? Le magistère, c'est-à-dire celui qui lui-même est l'interprète autorisé de l'Écriture. Et est-ce que c'est fidèle au sens de la foi de tous? On a en latin « sensus fidei », on pourrait rajouter « fidelium ». Sens de la foi des fidèles. La révélation de Bernadette à Lourdes, il a fallu, ça faut plutôt passer dans l'ordre, d'abord le magistère, elle vient soumettre, à l'autorité du magistère ce qu'elle a entendu. Le magistère s'interroge aussi si c'est fidèle à l'Écriture, la conception de la Vierge Marie. Je ne me lance pas dans ce débat. Et est-ce que ça rassemble les fidèles dans la même foi? Ou est-ce que ça divise? Sensus fidei fidelium. Est-ce que ça crée la communion ou est-ce que ça divise? Si quelqu'un vient vous dire « Moi j'ai une révélation, mais que c'est en gros pour dire « Moi, je... » Et vous, vous n'avez pas connu, vous ne savez pas, vous êtes ignorant. Ça, c'est pas du sensus fidei fidelium. Je ne suis pas sûr que ce soit... Avec toujours un principe de hiérarchie aussi, l'Écriture étant la norme par excellence. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un sens de la foi uniquement que c'est vrai. Il va falloir le confronter à l'Écriture. Ce n'est même pas seulement parce que le magistère a dit qu'il ne faut pas le confronter à l'Écriture. Et magistère au sens de la foi des fidèles. Hein, c'est quelque chose de pape François, la synodalité, c'est ce qui rappelle beaucoup, de dire il faut aussi être à l'écoute de l'ensemble de la foi du peuple de Dieu, dans les énoncés de la foi. Oui.
Donc ça voudrait dire que depuis le dernier apôtre, tout n'est qu'interprétation de la révélation.
Exactement. Tout n'est qu'interprétation de la révélation. Rien de nouveau sous le soleil.
Oui. Tout est dit.
Tout est dit. Mais nous sommes si lents à comprendre ce qu'il a voulu dire. C'est ça notre vie évangélique, c'est d'essayer de comprendre ce qui... Mais qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu as voulu dire « aimez-vous les uns les autres » Ça paraît évident de soi, mais c'est loin d'être évident. Oui.
Il me semble que pour aller plus loin, après 100 ou 150 ans d'exégèse critique, les théologiens d'aujourd'hui hésiteraient à dire que Dieu est l'auteur unique de l'un et de l'autre. C'est un caractère très fondamentaliste, ça renvoie à ce qu'on sait de la foi des croyants musulmans qui pensent que Mahomet a écrit véritablement sous la dictée de Dieu. Donc je trouve que c'est un terme qui devient très ambivalent.
C'est un terme qu'il faut interroger, c'est un terme qu'il faut bien interpréter. Alors, je fais un cours entier avec Atou Lassi, on est obligé de raccourcir.
Il y a 500 ans qu'ils sont déplacés.
Exactement, auteur, et on va le voir à l'instant là, auteur ne veut pas dire celui qui tient le stylo de la dictée. Quand il est dit dans ce texte que Dieu est l'auteur unique, c'est pas celui qui tient le stylo et puis l'autre il a les yeux fermés et puis ça passe tout seul. Ça, attention, en effet, merci de la remarque. C'est un auteur, et on va voir comment ça se passe. C'est un auteur où ça se joue entre l'expérience de celui qui écrit et la rencontre de ce Dieu-là dans les événements de sa vie. Et ça donne l'Écriture. C'est vrai que sous l'influence d'autres religions monothéistes, l'islam, on risque un petit peu, même s'il y a aussi des interrogations en islam sur cette question-là, sur l'écriture et son auteur, de dire uniquement, ça y est. Et puis, du coup, il faut interroger aussi qu'est-ce que ça veut dire qu'un auteur inspiré. L'inspiration des écritures. Est-ce que l'inspiration des écritures, ça veut dire qu'elles sont dénuées de toute erreur, notamment historique. Pourquoi est-ce que l'aveugle de Jéricho, chez Marc, il est guéri à la sortie de Jéricho, alors chez Matthieu, il est guéri à l'entrée? Qui s'est trompé? Dieu? Non. Ça a du sens que ce soit à l'entrée pour Matthieu, ça a du sens que ce soit à la sortie pour Marc. Et les deux sens sont importants pour comprendre le projet de Jésus, mort et ressuscité pour nous. Sinon, il n'y aurait qu'un évangile. Il n'y en aurait pas quatre. Oui.
Les conversions spontanées ou brutales, enfin, je ne sais pas comment dire, sont-elles des révélations? Je pense, par exemple, à Eric Emmanuel Schmitt qui raconte sa conversion dans le désert, dans Sahara. Et d'autres, bien sûr, c'est des révélations de Dieu.
Non, c'est des accueils.
Il faut vérifier après que c'est ça.
Ce sont des accueils de la révélation à laquelle chaque individu est amené à apporter sa réponse dans les événements de sa vie. Il accueille la révélation, l'unique révélation de Dieu, mais cette révélation se dit dans les conditions de son histoire et suscite de sa part une réponse. Crois-tu ? Crois-tu ? C'est pour ça que le premier lieu de notre conversion, c'est notre baptême. On nous a posé trois questions, on a posé à nos parents. Hein, crois-tu au Fils unique de Dieu ? Oui, je crois. Conversion. Réponse.
Ça, oui. Ça veut dire que quand on retrouve des nouveaux morceaux de l'écriture, et je pense à moi, ça a dû être un truc absolument incroyable.
Ouais, c'est un beau pari.
Parce que dans Qumran, il y a des textes qu'on ne connaissait pas du tout.
Ouais. Et on va voir comment ils s'inscrivent à l'intérieur de cette unique révélation de Dieu. Je vous propose qu'on y aille justement, parce que c'est là, on va aller justement dans le dossier de l'écriture au milieu de... Voilà. Mais vous voyez le principe de la révélation. Maintenant, on va aller le confronter à un Dieu qui se révèle au sein des quêtes religieuses. C'est mon deuxième point. Ce Dieu-là, puisque je m'intéresse à ce Dieu-là, celui dont nous avons lu la révélation à Jacob, ce Dieu-là, il se révèle dans un lieu ou dans des lieux déjà religieux. Le religieux est déjà là. Et de manière très multiple, très dispersée. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que on peut penser que la religion vient du plus lointain de l'humanité. L'humanité qui réfléchit, qui est en débat intérieur sur le sens de sa vie. Une manière très ancienne de le représenter, là, c'est dans les textes, les poèmes védiques. On est au 10e siècle avant Jésus-Christ. On dit l'expérience, on va dire, du 10e siècle avant Jésus-Christ. On a déjà, voilà, l'idée des dieux qui sont présents. Dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, les dieux sont partout présents. Une foule de dieux et de déesses côtoie les hommes, entre en rapport avec eux, se mêle à leurs affaires, autant que la pensée des hommes est obsédée par leur présence, par leur voisinage. Les hommes des temps anciens, bien avant la révélation judéo-chrétienne, n'ont pas un grand effort à faire pour s'imaginer les dieux. Ils sont là. C'est plutôt les hommes qui sont invités chez les dieux que les hommes qui invitent les dieux. C'est eux qui habitent chez eux. Parce que ce sont eux les maîtres du monde. Ils sont des invités, les hommes, parmi les dieux. et les dieux habitent autant le ciel que la terre, sans véritablement se stabiliser dans les éléments. Et cette confusion engendre bien souvent un monde de guerre et de chaos, avouons-le. Il n'y a pas beaucoup de stabilité. Les dieux sont partout. Et comme ils sont partout, eh bien, ils se battent aussi entre eux. De temps en temps, il y a un dieu qui prend le dessus sur les autres. Qui exerce un pouvoir un peu plus monarchique. C'est le cas de Zeus. Et l'homme ne peut résister à ce pouvoir monarchique. Si ce n'est au prix de commettre le pire des péchés, qui est le péché dit de l'hubris. Qui est une sorte d'affirmation de soi contre la puissance divine. Toute prétention à une puissance supérieure à celle des dieux est commis et est puni du pire châtiment des dieux. Ce thème, bien sûr, sera largement repris par la tragédie grecque.
Est-ce que vous pouvez nous laisser votre adresse email après le cours,
s'il vous plaît ? On fera ça. Mais vous inquiétez pas. Les dieux sont partout, et ils sont un peu pesants. Et en même temps, on leur doit tout. Et une sorte de relation comme ça, où on est redevable de leur protection. Le religieux est donc déjà là quand les Israélites vont eux-mêmes recevoir ce qu'on a appelé la révélation de Dieu. Ici, par exemple, vous avez une représentation du Dieu Soleil, Dieu Shamash, S-H-A-M-A. Shamash, Dieu Soleil, dont on retrouve des représentations dans le sud d'Israël, compris à Jérusalem, puisque Jérusalem a un temple dédié au Dieu Shamash, Dieu Soleil. À peu près aux environs de 1500 avant Jésus-Christ. Un certain nombre donc de religions mésopotamiennes se côtoient dans toute la plaine de Canaan et autour. Certains nombres, autour des civilisations sumériennes, babyloniennes, acadiennes, assyriennes sont les principales. Civilisation avec chacune des dieux. Donc le religieux, il est déjà là. Il est déjà là. Également, eh bien, il y a une certaine compréhension du monde qui est là. On a développé ce qu'on appelle une sorte de cosmologie pour se représenter la situation de l'homme dans le monde. Ici, c'est un peu loin, mais vous l'avez sur votre feuille, peut-être en petit. En Mésopotamie, pareil, deuxième millénaire avant Jésus-Christ, la représentation que l'homme a de l'univers dans lequel il habite, c'est qu'il y a en haut un en bas. L'en haut, il peut être appelé ciel, en bas, enfer. Et au milieu, voilà, il y a la terre. Sous la terre, il y a une couche d'eau douce. Avec un versant oriental, un versant occidental de cette terre. Deux bras de mer salés de chaque côté. Et puis pour tenir la voûte terrestre, eh bien, il y a des montagnes à l'Orient et des montagnes à l'Occident. Hein, ça nous est notamment connu par ce qu'on appelle l'épopée de Marduk. M-A-R-D-U-K. L'épopée de Marduk. C'est l'épopée de la création, finalement. Hein. Un récit de création, un récit de création mésopotamien. Et cette création nous raconte justement ces deux bras de mer. Au début, on a deux bras de mer, hein, c'est deux masses liquides, une d'eau salée et une d'eau de mer. Les deux se trouvent emmêlés, voilà, dans un coït ininterrompu, ce qui donne naissance d'ailleurs aux premières divinités. Et c'est des parents de ces premières divinités que vont naître les véritables dieux. Véritables dieux qui ressemblent d'ailleurs à des hommes. Et de ces véritables dieux va naître le dieu Marduk, celui qui sera vénéré. Donc il y a des dieux déjà là. Il y a une représentation de l'univers dans lequel on habite, un univers qui est lié à la présence des dieux, et finalement, l'homme est plutôt invité chez les dieux que le contraire. Il y a déjà là une notion du salut. Ça, c'est le récit que je viens de vous dire, hein, donc 1200 avant Jésus-Christ, hein, c'est l'épopée de Marduk. Hein. Il se fendit en deux comme un poisson asséché, et il en disposa une moitié qu'il voûta en manière de ciel, l'autre moitié il l'étendit pour en faire la terre, puis déployant son filet, développé de toutes parts, il en fit un fourreau pour en serrer ciel et terre. Et puis il y a le mouvement du soleil, si on prenait notre schéma, voilà, qui passe de l'Orient à l'Occident, qui passe sous la Terre et qui revient. Enfin, c'est la manière dont on conçoit l'univers avec sa forme très cyclique. On a aussi dans le religieux déjà là à l'époque d'Israël une notion de salut. Le salut ne commence pas avec le Dieu d'Israël. Mais il est conçu de cette manière, c'est plutôt vu comme l'espérance et la demande d'échapper au danger de l'existence, afin de pouvoir jouir le plus longtemps possible de la vie. Donc on cherche à échapper au danger au danger de l'existence. Et du coup, la divinité, c'est elle qui a en son propre intégrité le salut et la chance. C'est elle qui va nous le fournir, ce salut recherché. Ils peuvent donner, eux, ce qui manque à l'homme. Ils peuvent donner ce qui manque à l'homme. Et ça, ça se joue souvent, en tout cas dans les anciennes religions indiennes, hein, ça se joue souvent dans des joutes entre les dieux. C'est-à-dire, quel est celui qui va pouvoir me donner ou me protéger des dangers de l'existence ? Ah ben, celui qui saura le mieux se battre. Donc, un clan va placer sa confiance dans un champion. Une confiance qui va jusqu'à lui donner sa vie. Et qui dit donner sa vie, dit donner des sacrifices. Jusqu'au plus extrême des sacrifices, qui est des sacrifices humains. Et plus j'aurai sacrifié, plus j'aurai droit à une restitution de ce sacrifice qui sera la protection vis-à-vis des dangers de l'existence. Vous voyez que quand on parle de ce religieux déjà là, on ne dit pas finalement que la croyance serait une sorte d'opinion religieuse. Ou d'affirmer que les dieux existent. Les dieux sont déjà là. Ils sont déjà là. C'est plutôt, la croyance, là, une décision de mettre sa confiance dans celui-là. Parce que je crois qu'il peut me donner, lui, la vie. Je vais mêler ma vie à la sienne. Avec la fin du nomadisme et le début de la sédentarité, alors là, oui, pardon, là c'est l'image des clans rivaux des dieux, justement, dans les religions védiques. Ouais. Les dieux se battent et c'est celui qui sera le plus fort, qui sera le plus fort. Avec la sédentarisation, va venir encore une autre conception de dieu qui sera un dieu national ou protecteur. Donc quand il y a finalement, quand un clan se sédentarise, quand les premières cités-états naissent, eh bien les cités-états se procurent un dieu national, un dieu protecteur. Chaque dieu national étant censé protéger son clan. Vous comprenez ? Notamment, pourquoi dans la Bible, bien, on va faire référence au dieu des Amorites. Est-ce que le dieu des Amorites est plus fort que le dieu de Yahvé ? Ou que le Yahvé d'Israël ? Si les Amorites viennent, nous, dieu des Amorites, c'est lui. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a une forme relativement humaine. Donc cette idée de dieu national aussi va avoir un impact sur la manière dont Israël lui-même va se comprendre en face de Dieu. Ça, c'est le religieux déjà là. J'en viens à mon troisième mot pour dire une nouveauté qui se dévoile. Qui est ce Yahvé d'Israël? Yahvé. D'où vient-il? Bien, il existe plusieurs pistes, et là, c'est là qu'on rejoint justement ce que l'archéologie nous aide à mieux comprendre, pour penser que ce Yahvé a une origine plutôt sudiste, au sud d'Israël. Dans cette région-là. C'est dans cette région-là que l'on trouverait les premières traces d'un certain Yahvé. Les textes les plus anciens, les manuscrits les plus anciens de la Bible, nous donneraient finalement l'idée d'une apparition de Yahvé sortie de sa demeure pour rencontrer l'homme, les hommes.
À quelle époque?
C'est difficile à dater, mais on est autour, là aussi, de 1200 avant Jésus-Christ. Dans le chapitre 5 du livre des Juges, on nous parle d'un champ de victoire d'une coalition de quelques tribus israélites contre un ennemi cananéen, dont d'ailleurs dont la version primitive est souvent considérée comme un des textes les plus anciens de toute la Bible hébraïque. Vous l'avez sous les yeux. Donc, Livre des Juges, chapitre 5, verset 4. Seigneur, quand tu sortis de Séir, quand tu partis de la campagne d'Édom, la terre trembla, les cieux même fondirent, et les nuées fondirent en eau. Les montagnes furent ébranlées devant la face du Seigneur, celui du Sinaï, devant la face du Seigneur, Dieu d'Israël. Ça, c'est un thème très puissant hein, dans la pensée mésopotamienne, qu'un Dieu qui est au-dessus des éléments de la nature, qui les domine, et est souvent associé au tremblement de terre, à l'orage, également, que ça ébranle les forces de la nature quand le Dieu sort. Séir est ici, en Édom. Ça, c'est là, la région d'Édom, et le Sinaï est en dessous là. À la péninsule du Sinaï, avec le mont Moïse. Donc, on est dans cette région. On a une confirmation hein, de cette puissance du Dieu Yahvé. Hein. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33, vous l'avez aussi, c'est Moïse hein, qui dit « Le Seigneur est venu du Sinaï, il s'est levé pour eux du côté de Séir. » Il a resplendi depuis le mont de Paran, et il est arrivé à Meriba de Kadès. À sa droite brillait pour eux le feu de la loi. Hein, ces deux textes-là qu'on vient de lire, ils coïncident dans l'idée que l'origine de Yahvé se trouve en Séir, à Édom. Ce qui correspond à ce qui nous est relaté aussi de la fuite de Moïse vers le pays de Madian, pour échapper au Pharaon. Et c'est justement dans le pays de Madian que Yahvé va se révéler au buisson ardent. Et il va lui dire, je suis celui qui serai. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Je suis celui qui serait. S'il y a une apparition de Yahvé, ça semble dire que Yahvé n'a pas toujours été le Dieu d'Israël. Et que Yahvé, au départ, a pu être confondu, d'ailleurs, avec d'autres dieux. Il était d'ailleurs assimilé, un peu certainement, à un dieu guerrier, un dieu des steppes. Et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on vient de lire dans le livre des juges, quoi. Hein, c'est dieu guerrier. C'est quand même celui qui, aussi, a une puissance sur les forces de la nature. Et qui dit puissance sur les forces de la nature, dit aussi puissance sur les ennemis.
Et peut-être pourquoi, l'Ancien Testament, il y a tellement de récits sanguinaires et autres.
C'est ça. C'est-à-dire que notre Dieu, il doit être quand même plus fort que les autres. Pour affirmer sa force, son identité. Hein? Et donc, voilà, il va être plutôt assimilé à la... C'est, voilà, par exemple, ça c'est un dieu guerrier d'Égypte, le dieu Seth. Et on retrouve aussi, ça c'est l'archéologie, dans le sud d'Israël, on a retrouvé aussi des sceaux avec dessus des scarabées. Oui, dans le Negev. Hein. Des scarabées qui domptent les autruches. Donc c'est cette idée qu'il est, il est un dieu qui a une sorte de force sur la nature. Yahvé donc est né comme ça, on va dire, dans l'histoire d'Israël. Et il va devenir progressivement un dieu dynastique, petit b. Il va être peu à peu adopté comme un dieu tutélaire par les premiers rois d'Israël. Selon le récit biblique, hein, c'est David qui fait transférer Yahvé à Jérusalem et c'est Salomon qui l'installe dans le temple. L'arche. Lorsque Yahvé entre dans le temple de Jérusalem, il n'y est pas tout seul. Il n'y a apparemment pas la seule divinité. C'est ce que semble indiquer un petit texte poétique. Le soleil Shamash l'a fait connaître depuis le ciel. Yahvé a dit qu'il voulait habiter dans l'obscurité. C'est difficile à interpréter, mais on pense que le temple de Jérusalem était d'abord un sanctuaire du dieu Shamash, avec qui il avait à cohabiter un moment, avant de reprendre les fonctions du dieu soleil. C'est-à-dire, Yahvé a dit que le dieu soleil voulait habiter dans l'obscurité. Donc c'est moi qui vais reprendre sa place. Donc, le dieu guerrier, premier, devient un dieu dynastique qui a sa place à Jérusalem, dans le royaume du sud. Il est vénéré au temple. C'est donc un dieu qui devient un dieu national. Un dieu national qui est vénéré autant qui est vénéré autant au sud qu'au nord d'Israël, peu à peu. puisque la confédération des tribus israélites, vous savez, est constituée de deux royaumes, royaume du nord, royaume du sud. Le royaume du nord étant le plus important, jusqu'à sa disparition en 722 avant Jésus-Christ. Donc on a un indice du fait que ce dieu Yahvé est perçu comme un dieu national. Dans le livre du Deutéronome, vous l'avez, 32. Quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, Jacob, sa part d'héritage. Alors, c'est pas évident de savoir finalement qui est le Très-Haut, ni pourquoi un Dieu fixe les territoires des nations, mais on a essayé de reconstituer un texte primitif antérieur à celui-ci, que vous avez aussi. Hein. Quand Élion, le Très-Haut, donna les nations en héritage, quand il répartit les hommes, il fixa les territoires des peuples suivant le nombre des fils d'El. En effet, la part de Yahvé et son peuple, Jacob, sa part attribuée. En fait, ce texte, il met en scène comme une assemblée de divinités qui serait présidée par Élion, très haut.
Voilà. Excusez-moi.
Oui.
J'ai une question. Lorsqu'on parle de l'histoire de Moïse, typiquement dans le livre de Deutéronome, on se situe à une époque historique qui est antérieure au premier roi d'Israël. Mais alors, est-ce qu'il faut considérer que c'est une relecture après coup ?
Oui, on va le voir justement. C'est en effet une relecture après coup. C'est justement au moment même où le... pour ça qu'on va le voir à la fin de notre parcours, au moment où Israël finalement est contraint de se dire « Mais qui est-il ce Dieu s'il n'est plus simplement un Dieu protecteur, un Dieu national, un Dieu dynastique et même un Dieu un parmi d'autres, qui est-il vraiment ?» Et là, on va relire cette histoire de Moïse. Ça va être ce qu'on appelle la relecture deutéronomiste. Donc on retrouve dans le texte du Deutéronome cette relecture deutéronomiste. Mais il y avait une couche primitive, que l'on appelle la couche yaviste. La défense de ce Dieu Yahvé contre les autres dieux. Donc on a la couche yaviste et on introduit la couche deutéronomiste à partir de l'Église. On va résumer tout ça dans un graphique là, à la fin. Mais de fait, c'est une relecture. Donc là, ce qu'on essaye de faire là, c'est que j'essaye de vous retrouver la couche la plus primitive. Donc c'est celle-là, vraiment, qui semble nous parler d'un dieu qui serait au-dessus du panthéon, en haut du panthéon des dieux, et qui attribue à chacun de ses fils un peuple.
Mais si on ne comprend pas à côté de tout ça, comment ce Dieu-là, du départ, s'est métamorphosé pour devenir le Dieu auquel nous, nous croyons aujourd'hui?
Oh. On va y arriver.
D'accord. Du temps de David, c'était une seule, il n'y avait pas de...
Du temps de David, il y a un seul royaume.
Ah, oui.
David, il y a un seul royaume.
C'est après
Salomon qu'on va avoir la division du royaume du nord et du royaume du sud, jusqu'en 722, avec la reprise de Samarie. Et là, on parle de... On est bien avant, là. On est au moment où il y a toutes les tribus, on va dire, qui prennent possession de la terre d'Israël et de sa répartition.
Vous avez dit que ce texte, là, Panthéon, le Très-Haut, etc., ça venait d'où,
Le texte du Deutéronome ?
La version Panthéon.
La version primitive, c'est un manuscrit qui a été retrouvé, qui est antérieur à cette version-là du Deutéronome, mais dont on a du mal à donner une datation précise.
D'accord. Et nous, en fait, on le revoit plus après.
Et nous, on le revoit plus après. Juste là. On le retrouve juste là. Il aurait 70 fils, c'était Lyon. 70 fils. Et il a organisé le monde en mettant chacun de ses fils à la tête, chaque peuple sous le patronage d'un de ses fils. Donc ce poème, hein, c'est un poème ougarite. Il essaye d'expliquer justement la diversité des peuples et la diversité des dieux. Hein, c'est un peu son sujet. Et Yahvé, c'est le dieu tutélaire d'Israël. Comme Kamosh est le dieu des Moabites, par exemple. K-A-M-O-S-H. Kamosh, c'est le dieu des Moabites. Ou Milcom, M-I-L-K-O-M, le dieu des Amorites. Et tous ceux-là sont les fils des Lyon. Donc là, on est en train d'essayer de penser une synthèse. Vous voyez, le Deutéronome, lui, justement, il essaye de se situer au-dessus. Et la synthèse, eh ben, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël. Et
ce Yahweh, on dirait un peu archaïque, dont on parle, il faut entendre les doctes, enfin, les rabbins, peut-être, les sages. Les petites gens, les...
Non, il faut plutôt entendre les élites royales. Ni les élites religieuses.
Ils ne descendent pas jusqu'aux paysans, jusqu'aux pêcheurs.
Si, mais lui, il peut en entendre plusieurs. Il peut, lui, pour le coup, si vous voulez, tout l'enjeu, c'est que la cour royale arrive à légitimer l'autorité de celui-là.
Oui.
Et donc, il faut que la cour royale, il faut que ça descende, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais c'est d'ailleurs, on va encore retrouver d'une certaine manière, y compris à l'époque de Jésus, quand il traverse la Samarie, il y a encore des idées de... C'est pas le dieu du temple de Jérusalem qui fait autorité, quoi. On voit que pour que ça descende, on va dire, jusque dans les contrées ou les plus reculées de la capitale, c'est encore quelque chose de difficile. Donc là, on va parler plutôt d'une légitimité que recherchent les dynasties royales. On peut dire, le Yahvé d'Israël, c'est celui-ci qui est le plus fort. Donc on va inventer aussi des textes qui vont dire, c'est lui qui est au-dessus de tous les dieux. Mais on est au milieu. Alors, dans le royaume du Nord, on a aussi cette idée, et on va la retrouver, hein, qu'il y a ce qu'on appelle les Baals. Les Baals, on va les retrouver dans le premier livre des rois, où Élie combat les Baals. Ça, c'est un texte très fort, puisqu'il va falloir montrer que le Yahvé d'Israël est plus fort que tous les Baals. Et la victoire d'Élie accrédite cette idée. Il a vaincu les Baals. Ce qui ne veut pas dire qu'on a encore des formes qui vont, par exemple dans le royaume du Nord, pardon, y compris après la chute de Samarie en 722, on a encore des traces du Yahvé qui a une forme bovine, avec des cornes. Alors là on se dit, il y a une sorte de, voilà, il y a eu une sorte de collusion entre différentes, voilà. C'est le Yahvé mais il a une forme bovine. Ce qu'on est en train de dire, pour répondre à la question, c'est que c'est pas le Yahvé un unique qui d'un seul coup serait apparu en 3000 avant Jésus-Christ, et que c'est lui en qui il faut croire. On est à la recherche de la juste figure de la révélation de Dieu, au milieu de tout le religieux qui existe là. Ce qui, autre étape, on va directement là, arriver à un dieu 1. Un dieu 1. La fin du royaume du Nord coïncide avec l'importance grandissante de Jérusalem comme lieu religieux essentiel au culte de Yahweh. Cette importance va être consacrée par le roi Josias en 622. À qui on attribue une grande réforme religieuse, qui fait du temple de Jérusalem le seul lieu de culte sacrificiel légitime. En fermant tous les autres lieux de culte yahvistes. Et en abolissant dans le temple de Jérusalem toutes les autres représentations des divinités. Il n'y en a plus qu'un. Il est à Jérusalem. C'est Yahvé. Et il n'y a pas d'autre lieu consacré à Yahvé. Il est fort probable que la première version du Deutéronome est rédigée dans ce contexte. Donc finalement, la réforme deutéronomiste dont on parlait tout à l'heure, elle commence là. Ce qui va donner le fameux Shema Israël. Vous l'avez sur votre feuille. Écoute Israël. Deutéronome 6. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors là, je vous ai donné la version dernière, la version liturgique, hein, celle qu'on lit dans nos liturgies. Vous faudrait plutôt « Le Seigneur, notre Elohim, Yahvé Adonai, est un. » Parce que « unique », on a encore passé un cap de plus. Pour l'instant, il est un. Un, ça veut dire il n'y en a pas d'autre que l'on peut vénérer. Il n'y a pas d'autre lieu de culte que Jérusalem, consacré à Yahvé. Il n'y a pas une pluralité de manifestations du divin. C'est ce que confirme le chapitre 12 du livre de Deutéronome. Vous l'avez aussi. Garde-toi d'offrir des holocaustes en tout lieu qui te semblerait bon. C'est uniquement au lieu choisi par le Seigneur en l'une de tes tribus. C'est là que tu offriras tes holocaustes. C'est là que tu feras tout ce que je te commande. Hein? Unité du culte égale unité du Dieu d'Israël. Il ne peut pas se diviser dans ses manifestations. Et c'est là qu'on va commencer à voir disparaître les formes bovines, les formes solaires, etc. pour vous présenter le Yahvé d'Israël. Ce qui nous amène enfin au Dieu unique. Dont l'événement décisif est la destruction du temple de Jérusalem en 587. Ça veut dire seulement 50 ans après la réforme de Josias. Ah, vous avez une réforme de Josias en 622 qui vous dit « C'est là qu'il faut consacrer un culte au Yahvé d'Israël. » 50 ans après, le roi de Babylone détruit le temple de Jérusalem. Et là, c'est une catastrophe absolue dans la psychologie du peuple d'Israël.
Quelle année ?
587. C'est une catastrophe absolue dans l'expérience religieuse du peuple d'Israël, et dans sa psychologie religieuse, on pourrait dire. L'absence d'un roi l'absence d'un temple, l'absence d'un dieu national ou tutélaire de la royauté dynastique. Et le livre d'Isaïe, en tout cas sa deuxième partie, la deuxième partie du livre d'Isaïe, vous savez que le livre d'Isaïe, c'est trois grandes parties, on pourrait dire presque trois livres d'Isaïe, premier Isaïe, deuxième Isaïe, troisième Isaïe, la partie centrale du livre d'Isaïe est consacrée à cette révolution intérieure. Où même, on nous dit que beaucoup de Judéens sont tentés pour aller chercher un autre dieu auquel ils pourraient se vouer. Celui-là a été vaincu, son temple est détruit, il n'est plus un roi dynastique, allons-nous en chercher un autre, disent un certain nombre de Judéens. Et nous connaissons le psaume 26 que nous entendons régulièrement. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous rappelant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. On ne peut plus adorer le dieu harpe.
C'est comme il n'y a plus le temple, il n'y a pas le droit d'aller l'adorer ailleurs.
Non, c'était la réforme de Josias, l'interdisait. Eh bien, j'oserais dire, ce sera ma conclusion avant que nous nous quittions, heureuse chute. Heureuse chute. Heureuse chute. Et vous voyez que Dieu se révèle vraiment dans cette chute. Heureuse chute parce que c'est à ce moment-là qu'Israël va découvrir que ce Dieu-là est le Dieu de l'Alliance. Ce Dieu-là est le Dieu de l'Alliance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un Dieu qui donne avant de demander. C'est un Dieu qui promet avant de recevoir. C'est un Dieu qui rend libre pour établir une relation. Et vous voyez dans mon petit schéma que vous voyez très mal sur votre feuille, mais globalement, il y a une idée à retenir, voilà. Que c'est à ce moment-là, 587, que cette tradition deutéronomiste va relire l'histoire sainte judéenne, ou yaviste. Et puis, et c'est là qu'on va trouver cette tradition d'un Moïse. Un Moïse, alors un Moïse, est-ce qu'il a existé? Il n'a pas existé, hein. Je ne suis pas archéologue, hein, donc c'est pas la question, mais... Globalement, d'un fonctionnaire d'Israël présent en terre d'Égypte. Voilà. D'un fonctionnaire d'Israël présent en terre d'Égypte, qui est le récepteur du projet de Dieu, qui est un projet de liberté. Et toute l'histoire sainte, l'histoire qu'on vient de raconter, va être relue sous ce prisme-là de l'alliance fidèle du Dieu d'Israël. et ceux qui sont les garants de cette alliance fidèle, ceux qui la rappellent sans cesse, ce sont tous les prophètes post-exiliques, à partir d'Isaïe jusque aux prophètes de l'exil, Ézéchiel en particulier. Vous comprenez Ézéchiel, ici, c'est une espèce de renouveau. Israël accepte de laisser se révéler ce Dieu-là, qui est le Dieu d'une alliance nouvelle et universelle. Et non pas un Dieu rival des autres. Tu n'es pas un Dieu jaloux. Qui est au cœur des psaumes. Mais un Dieu fidèle. Eh bien, c'est ce Dieu-là, d'Israël, que nous allons laisser justement nous interroger dans la suite de notre parcours.
Israël, en ce moment déjà, voyait l'universalité de Dieu. Je pense que cette universalité de Dieu, ce n'est pas à partir de Jésus.
Il y a le début d'une réflexion, justement, sur cette universalité, en particulier à partir des écrits dits de sagesse. La sagesse, les écrits de sagesse, vont être ce vecteur d'un message universel à partir de ce Dieu d'Israël, de ce Dieu-là. Hein, l'importance des écrits de sagesse. Ce Dieu-là n'est pas un Dieu territorial, un Dieu national, il est un Dieu pour tous les peuples. Écrits de sagesse. À la semaine prochaine. Pas de semaine prochaine. Dans 3 semaines. Pas de semaine prochaine.